Alors nous allons lire dans la Bible, dans le livre de la Genèse, une histoire. Alors je la découpe, il y aura deux parties. Je vais d'abord commencer par le début de cette histoire, puisque c'est l'histoire de Jacob que vous avez déjà, dont vous avez entendu parler déjà. Voici, c'est au chapitre 32 du livre de Genèse. Jacob continue sa route et des anges de Dieu viennent à sa rencontre. Quand il les voit, il dit « Mais c'est un camp de Dieu » et il appelle cet endroit Mahanaïm. Jacob envoie devant lui des messagers à son frère Ésaü. Celui-ci est au pays de Séir, dans la campagne d'Édom, et il donne ses ordres à ses messagers. « Eh bien, voici ce que vous direz à Ésaü, mon frère. Ton serviteur Jacob te fait dire ceci. J'ai vécu chez Laban. J'y suis resté jusqu'à maintenant. Je possède des bœufs, des ânes, des moutons et des chèvres, et des serviteurs et des servantes. J'ai voulu te donner ces nouvelles, mon maître, pour que tu te montres bon envers moi. » Alors les messagers reviennent auprès de Jacob et ils disent « Nous sommes allés voir ton frère Ésaü. » Lui aussi vient à ta rencontre avec 400 hommes. » Alors Jacob est rempli d'une peur terrible. Il divise en deux groupes les gens qui sont avec lui, les moutons, les chèvres, les bœufs et les chameaux. Il se dit, si Ésaü arrive près d'un groupe et s'il l'attaque, l'autre groupe pourra se sauver. Ensuite, Jacob se met à prier. « Dieu de mon grand-père Abraham, Dieu de mon père Isaac, toi le Seigneur, tu m'as dit, retourne dans ton pays auprès de ta famille et je te ferai du bien. Tu m'as si souvent montré ton amour et ta fidélité à moi, ton serviteur, et je ne le mérite pas. En effet, quand j'ai passé le fleuve Jourdain, j'avais seulement mon bâton. Et maintenant, je reviens avec ces deux groupes. Alors je t'en prie, « Sauve-moi de mon frère, j'ai peur de lui, j'ai peur qu'il vienne me tuer, moi, mes femmes et mes enfants. Toi, tu m'as dit, je veux te faire du bien. Tes enfants et les enfants de leurs enfants seront aussi nombreux que les grains de sable de la mer, et ils seront si nombreux qu'on ne pourra pas les compter. » Nous chantons le cantique indiqué.
Donc c'est le cantique 240 dans le petit recueil Louange et prière. Vers toi s'élève mon âme, les trois strophes de ce cantique. Ensuite, après le cantique, donc, nous avons la prière. Et puis après la prière, eh bien, les jeunes partiront avec les moniteurs et monitrices qui est formidable, qui les accompagne.
Thank you.
Nous poursuivons la lecture pour voir ce qui va arriver à Jacob, puisqu'il est transi de peur et qu'il s'est adressé à son Dieu. Cette nuit-là, Jacob reste à cet endroit. Dans ses troupeaux, il choisit un cadeau pour son frère Ésaü. 200 chèvres, 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers. Ah, mais aussi 30 chamelles qui allaitent leurs petits. 40 vaches, 10 taureaux, 20 ânesses et 10 ânes. Il confie chaque troupeau séparément à ses serviteurs et il leur dit « Passez devant moi et laissez un espace entre chaque troupeau. » Puis il donne cet ordre au premier serviteur. « Quand mon frère Ésaü te rencontrera, il va te demander « À qui es-tu et où vas-tu ?» Et à qui est ce troupeau qui marche devant toi ? Alors tu lui répondras, cela appartient à ton serviteur Jacob. C'est un cadeau qu'il t'envoie, à toi, mon maître. Et lui-même arrive derrière nous. Jacob donne le même ordre au deuxième serviteur, ensuite au troisième, et puis à tous ceux qui marchent derrière les troupeaux. Et ainsi, quand vous rencontrerez Ésaü, vous lui parlerez de cette façon. Vous lui direz, ton serviteur Jacob arrive, lui aussi, derrière nous. En effet, Jacob pense, si j'envoie les cadeaux devant moi, je vais calmer Ésaü. Et ensuite, je me présenterai devant lui. Peut-être qu'il me recevra bien. Alors les troupeaux partent en avant, et cette nuit-là, Jacob reste dans le camp. Pendant la nuit, Jacob se lève. Il prend ses deux femmes, ses deux servantes et ses 11 enfants. Il leur fait passer le torrent du Yabok avec tout ce qu'il possède. Mais Jacob reste seul. Quelqu'un vient lutter avec lui jusqu'au lever du jour. L'adversaire de Jacob voit que dans la lutte, il n'arrive pas à être plus fort que lui. Alors il le frappe à la hanche et pendant le combat, il le blesse à la hanche. Puis il dit à Jacob, « Le jour se lève, laisse-moi partir. » Jacob répond, « Ah, je ne te laisserai pas partir. D'abord, bénis-moi. » L'autre demande, « Mais quel est ton nom ?» Jacob répond, « Je m'appelle Jacob. » Et l'autre continue, « Tu ne t'appelleras plus Jacob. Ton nom sera Israël. En effet, tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été le plus fort. » Jacob lui demande, « Ah, mais je t'en prie, dis-moi ton nom. » L'autre répond, « Tu veux savoir mon nom ? Et pourquoi donc ?» Puis il le bénit. Alors Jacob dit, « J'ai vu le visage de Dieu et je suis encore en vie. » Et il appelle cet endroit Penuel, c'est-à-dire visage de Dieu. Quand le soleil se lève, Jacob passe la rivière à Penuel. Il boite à cause de sa hanche. Alors avant de commenter ce texte, qui est un texte très connu, nous prions ces paroles qui sont d'une prière du Moyen-Âge. Viens, esprit des miséreux, viens pourvoir à nos manques. Viens, esprit généreux, viens évangéliser notre pensée tortueuse. Viens, esprit de lumière, viens et pénètre jusqu'au repli de notre cœur. Viens, lumière des croyants, viens assouplir ce qui est rigide dans notre intelligence. Viens réparer l'image du Père qui est faussée en nous. Viens réchauffer notre amour refroidi pour le Christ vivant. Alors nous pourrons nous abandonner à ta parole et elle nous conduira à la vie éternelle. Amen. Jacob, c'est un personnage de série. Son ambiguïté est vraiment ce qu'on aime dans les séries, dans les personnages. C'est exactement ce qui fait le succès d'une histoire à épisode. Alors, des trois patriarches, c'est quand même le moins recommandable. Et peut-être, justement, c'est lui le plus attachant. Parce qu'avec lui, on s'y retrouve. On retrouve ses traits de caractère contrastés, ses petites combines, ses combats qui ressemblent un peu aux nôtres, mais évidemment à la taille d'un héros télégénique. Et pourtant, Jacob, lui, ne fait rien de grand dans sa vie, en tout cas jusqu'à présent. Il a plutôt tendance à ruser, comme l'indique son nom, puisque Jacob, ça veut dire le rusé et le tordu. On peut le comprendre. Jacob doit s'arranger avec une réalité qui ne l'a pas avantagé, car c'est son frère, Saül, son aîné, qui a reçu tout ce qu'il fallait pour être le préféré et le béni de son père. Alors qu'est-ce qu'il reste à ce cadet ? Il ne reste que des coups tordus. Autre étymologie de son nom, c'est-à-dire subtiliser habilement le droit d'aînesse de son frère, c'est-à-dire quand même rafler 75% de l'héritage. Et il lui reste aussi à détourner en sa faveur la bénédiction qui normalement revient à l'aîné. Alors, il n'est pas tranquille, Jacob. Il a subtilisé, il a volé, il a rusé, mais il est hanté par cette bénédiction qu'il a prise à l'arracher. Alors, il a fallu que Dieu lui-même, par un rêve, je pense que vous connaissez ce rêve où on voit une échelle et des anges qui montent et qui descendent, eh bien que dans ce rêve, Dieu confirme l'effectivité de la bénédiction. Pour autant, Jacob est un personnage angoissé qui reste hanté par les promesses de Dieu. Il n'a jamais été certain qu'elles lui revenaient de droit. Alors, nous le retrouvons là, quelques chapitres plus loin, et quelques 20 années après ce vol, de retour sur le lieu du crime. Jacob, en trompeur récidiviste, parce que je peux vous dire qu'avec son beau-frère et en affaires, il est resté fidèle à lui-même. Un mélange de lâcheté, de combine et de ruse. Alors Dieu lui avait promis protection, nourriture, vêtements et en plus le retour dans son pays. Eh bien, promesse tenue. Et même, on peut dire que la promesse a dépassé ce qu'il pouvait en attendre. C'est un homme qui, somme toute, a réussi dans la vie. Deux concubines de rechange, 11 enfants, Et de quoi entretenir cette famille? Des chèvres, des béliers, des chamelles, des taureaux, des vaches, des ânes et des ânesses, etc. Tout ça en nombre, afin que tout le personnel, et en même temps tout le personnel pour s'en occuper. Alors on voit que le chemin de l'alliance avec Dieu s'est frayé un passage au travers de difficultés en tout genre et puis aussi d'ambiguïté. Est-ce que la bénédiction de Dieu couvre toutes sortes de choses malhonnêtes? Enfin, je ne sais pas. En tout cas, le trompeur a été largement trompé à son tour et le voilà de retour aux portes du pays de ses pères. Mais là, c'est le passé qui le rattrape. Et même on peut dire qu'il le dépasse, parce que le passé vient se mettre au travers de son chemin. Il s'agit d'assumer les conséquences de ses vols passés, de ses petites combines. Et il est normal que Ésaü se venge. Ce frère qui l'a floué est là, qui encombre son chemin. Alors, c'est quasi certain, son avenir, c'est une mort assurée. Tout peut se jouer et se perdre ici. Au passage du Yabok, alors le Yabok, il ne faut pas penser que c'est un grand fleuve, c'est juste un maigre ruisseau dont le nom en hébreu d'ailleurs rappelle un peu celui de Jacob. Alors Jacob n'a pour lui que cette promesse de Dieu, tellement fragile dans ce contexte où il faut solder les anciens comptes. Alors étreint par l'angoisse, il supplie son Dieu, il rafraîchit la mémoire à Dieu. Écoute, souviens-toi de ta promesse. Maintenant, c'est à toi de l'accomplir, cette promesse. Alors, c'est toujours comme ça avec Dieu, hein ? Il faut tout redire, il faut tout reprendre à zéro, et il faut toujours remettre sa confiance sur le métier. Puisqu'il est là, Jacob, sur les berges du passé, seul pour faire le point, en retrait pour gagner du temps, et pour, on doit le dire quand même, sauver sa peau, caché par la nuit pour affronter la menace du futur, eh bien, il fait passer tous ses biens et toute sa famille en ambassade. Peut-être reste-t-il là dans l'attente d'un autre songe et peut-être même attend-il une nouvelle révélation avec une autre bénédiction à la clé, on ne sait pas. Mais non. Et là, c'est décevant et c'est même plus qu'étonnant. C'est un combat qui lui est proposé. Un combat énigmatique, absurde, où l'identité de l'adversaire est aussi incertaine qu'est l'avenir de Jacob. Alors, il ne faut pas se moquer de sa peur, de ses petits calculs, qui cherche à préserver quand même la moitié de ses biens de la vengeance de son frère. Car on le sait bien, nous, dans nos situations d'effroi, quand nous commençons à dévisser comme ça dans l'abîme de nos angoisses, qu'elles soient justifiées ou qu'elles soient incompréhensibles pour l'entourage, il ne nous reste plus qu'à faire le point, à nous tourner vers Dieu dans l'attente d'une parole qui nous rendra le souffle et la vie. Et comme Jacob, Nous faisons une relecture panique des promesses de Dieu pour y puiser le courage de vivre. Or, ce qui nous est proposé, eh bien, c'est un combat surhumain, une lutte qui sent la poussière et la sueur, une lutte bien concrète qui engage toute notre existence, une lutte où on doit encore se battre, mais cette fois-ci, contre un adversaire qu'on n'arrive même pas à identifier. Alors, est-ce qu'on se bat contre Dieu? On ne sait pas. Est-ce que c'est la vie elle-même qui devient hostile? Est-ce que c'est un combat contre nous-mêmes, ou même, on pourrait dire, contre le mal personnifié? Qui sait? Impossible de se prononcer. Comment discerner dans cette nuit épaisse où tout se confond et tout s'équivaut? Et puis, le texte de Genèse ne cherche même pas à nous aider. Il tient à garder son secret. Alors dans la solitude, dans la nuit, dans la plus noire de notre conscience, et d'ailleurs sans que personne s'en doute, hein, souvent, hein, il semble bien que Dieu se fasse notre ennemi. Parce qu'au moment où on l'invoque, alors qu'on se réclame de ses promesses, eh bien il nous répond par un combat absurde. Il nous résiste. Alors c'est embarrassant quand même. C'est embarrassant, c'est choquant d'avoir à se dire qu'il y a, du fait même des promesses et de la bénédiction, des rendez-vous terribles avec notre Dieu. Un Dieu qui ne se tient pas dignement au fait de la transcendance, mais qui mord avec nous la poussière de nos luttes. Bien sûr, lorsqu'on vit une saison tempérée de notre existence, quand tout va à peu près bien, quand on maîtrise les choses, quand on a la force de rebondir, quand on peut encore s'en remettre à notre force de caractère, qui a d'ailleurs fait longtemps notre fierté de protestant, la bénédiction de Dieu reste dans notre conscience l'assurance d'une bienveillance. Mais on peut se poser la question, est-ce que cette bénédiction pour nous n'est pas aussi comme l'hommage que le Dieu de tendresse et de bonté fait à notre rectitude toute protestante? Or ici, on est loin du Dieu rassurant. Ce n'est pourtant pas une situation exceptionnelle. Dans les psaumes, les auteurs ne censurent pas les plaintes et les protestations. Ils crient « Ne me déçois pas, ne te dédie pas, ne compromets pas ta réputation, ne me cache pas ta face, souviens-toi de tes promesses, sinon je m'enlise. Et si tu n'interviens pas tout de suite, eh bien je vais tout droit à la tombe. » Et puis, il n'y a pas que les psaumes. Si nous relisons notre vie sans censurer les moments les plus difficiles et les plus absurdes, ceux où tout ce qu'on avait entendu, tout ce qu'on avait réfléchi et compris sur Dieu, vous savez, ces moments où tout ce qu'on nous avait appris pour garder la face avec dignité, toutes ces nobles valeurs, tous ces principes scintillants, eh bien, sont comme caducs, inopérants. Alors on ne sait plus quel est le visage que Dieu peut prendre. Est-ce que c'est un père? Vraiment? On lui claque la porte au nez. Et si on ne se replie pas sur nous-mêmes, on l'assaille de reproches et aussi de questions. On engage toutes ses forces à le convoquer et même à le provoquer. Et alors quoi? C'est toi mon père? C'est celui qui me donne la vie? Alors pourquoi tu ne me donnes même pas la force de continuer à vivre et à espérer? Alors que Dieu accepte de prendre les traits de notre ennemi pour nous provoquer à vivre, pour nous pousser à militer pour notre survie, c'est troublant à dire en chair, mais c'est bien plus choquant, bien plus révoltant à expérimenter. Et ce qu'il y a de plus choquant encore, c'est de constater que dans ces moments, comme dans cette histoire d'ailleurs, eh bien c'est nous qui sommes plus forts que notre adversaire. Nous l'emportons sur Dieu, sur le Dieu prétendu tout-puissant. Alors, est-ce que notre Dieu serait un Dieu de perdant ou un Dieu perdant? Devant notre acharnement à vivre dans notre corps à corps avec lui, eh bien, Dieu accepte de prendre le visage de l'adversité. Et en plus, il se rend. Quand il y va de notre vie et de sa vraie qualité d'éternité, alors je ne parle pas de morale, hein, bien sûr, hein, ou de notre tenue ou de notre témoignage, ça, c'est pas son souci. Eh bien, quand il s'agit de cette qualité qu'on appelle l'éternité, notre vie éternelle, Dieu est prêt à se faire passer pour un ennemi. Et c'est parfois par ce biais éprouvant que nous prenons conscience de la valeur de notre vie. C'est par ce biais que le goût de vivre repousse en nous avec plus de vigueur. Sa confiance en nous va jusque-là. Car dans cette situation extrême, il prend un énorme risque. Notre désespoir ou notre rupture définitive avec lui. Mais vous voyez, l'histoire montre que lorsque le jour se lève, il désarme, il se laisse défaire, il s'incline devant nous lorsque nous luttons jusqu'au bout de la nuit, on pourrait dire jusqu'au bout de nous-mêmes. Sa passion, c'est notre vie. Dût-elle passer par la mort ? Car c'est un Dieu vivant qui nous veut à son image, c'est-à-dire vivant. C'est un Dieu qui milite contre nos pulsions mortifères. Il est contre notre sens du fatalisme. Et il engage toute sa personne contre notre logique de la rétribution, contre nos calculs de probabilité. Il lutte lui-même contre cette logique de notre péché qui, en laissant le dernier mot à nos fautes, donne raison à la mort. Non, Dieu ne désire pas d'autre victoire que celle de la vie contre la mort. Pour provoquer à la vie, il n'a rien de plus fort que le combat à mort. Pour donner une idée de la valeur de notre vie, rien n'est plus fort que les provocations de la mort. Quand on ne distingue plus vraiment son visage, quand on n'arrive même plus à le reconnaître dans notre vie, quand tout ce qu'on croit savoir sur lui et sur nous d'ailleurs aussi, ne sert plus à rien. Et d'ailleurs, quand on l'affuble de tous les maux et qu'on le traite de tous les noms d'oiseaux, alors, il est prêt à nous offrir la victoire. Il est prêt à mourir à notre place pour que nous ayons la victoire sur tout ce qui empoisonne notre cœur, sur tous ces ennemis avec lesquels, pourtant, nous nous étions arrangés jusqu'alors. Oui, contre Dieu, nous n'avons que Dieu lui-même. Nous n'avons que sa bénédiction. Et lui, il aime qu'on le lui rappelle. Quand Dieu semble prendre l'apparence de tout ce qui nous nuit, nous, chrétiens, nous faisons cette lecture du passage de Genèse en nous rappelant que nous n'avons que Jésus-Christ pour qu'il se rende. Là, nous voyons Dieu face à face, mais dans un corps à corps éprouvant. Alors c'est choquant, cette formulation va contre les vues bibliques, parce que normalement on ne peut pas voir Dieu sans mourir. Eh bien justement, il faut que le Dieu Tout-Puissant meure pour que nous puissions vivre. Nous ne pouvons voir Dieu et vivre plus qu'avant, qu'en regardant le Dieu vaincu, ce Dieu vaincu pour nous qui est Jésus-Christ. C'est ainsi que Dieu nous sauve, par l'apparence du mal. Car vous le savez bien, c'est par l'apparence du bien que nous sommes souvent trompés, et pour tout dire, perdus. Quand enfin la nuit de nos luttes s'écarte pour laisser la place à un jour timide, quand l'obscurité de cette provocation se lève pour laisser place à la sérénité, nous nous le relevons grandis, vivifiés, et nous ne sommes plus les mêmes, parce que Dieu n'est plus le même pour nous. Nous ne confondons plus sa bénédiction avec les richesses, avec les réussites professionnelles, ni avec la santé, ni avec la fierté que nous donne notre famille, ni avec le nombre d'amis, de likes même, ni avec le contentement de nous-mêmes. Dieu n'est plus confondu dans sa bonté avec ses satisfactions pour lesquelles nous étions prêts à des petits arrangements. Non, Dieu que nous avons enfin rencontré dans l'étreinte d'une expérience vécue n'est plus le même. Tout comme Jacob, le rusé, comme dit son nom, le tordu, nous recevons un nouveau nom, notre nom véritable, celui qui dit notre vocation unique. Car nous sommes devenus autres et c'est notre moi authentique, spécifique, ce mystère de chacun qu'on ne peut ni échanger ni négocier, qu'on vient de recevoir. Ce nouveau nom, sachant qu'il est celui d'Israël, valorisé comme partenaire de Dieu, car nous avons lutté contre Dieu et contre les hommes, et nous avons été les plus forts. Nous avons lutté contre les faux dieux, contre cette idole d'un Dieu tout-puissant, et contre nous-mêmes, cette idole du petit homme tout-puissant qui a le dernier mot, et nous avons été le plus forts. Le nom de Dieu, nous ne l'aurons qu'à cette condition. Il ne nous déclinera son identité qu'en nous présentant le nom de Jésus-Christ, son Fils livré pour nous. Car Dieu ne se reconnaît que dans sa mort et dans sa résurrection en Jésus-Christ. Que de dos, disait Luther, c'est-à-dire précisément là où on n'a pas envie de le regarder. Lorsqu'il prend ce visage qu'on veut éviter de voir et pour lequel nous n'avions jusque-là que répulsion et mépris, vous savez, celui du serviteur souffrant d'Ésaïe 53, ce visage du Dieu homme de douleur, habitué à la souffrance, et que nous comptions pour pas grand-chose, pour rien même, parce qu'il n'était pas un gagnant. Or Dieu ne peut se contempler que retourné. Quand il nous choque, quand il nous interroge, quand il brouille les images flatteuses de lui, celles auxquelles on tient, ces idoles de la force et de la fausse puissance avec laquelle nous l'avons confondu. Nous ne connaissons Dieu que lorsqu'il nous vient en intimité, dans notre condition d'homme et en plus d'un homme vaincu par amour. Alors vous voyez, il y a un avant et un après. C'est pourquoi ce passage est très connu et le commentaire et la méditation de ce passage est inépuisable. Désormais, il peut nous dire: pourquoi est-ce que tu continues à me demander mon nom? Mon nom, tu le portes en toi. Mon nom, il est dans ta chair, il est dans ta vie. mon nom, il est dans la marque que j'y ai laissée. Et c'est désormais depuis ta chair, à partir de ton existence, que tu pourras me nommer. Désormais, tu n'as plus ces définitions prêtes à l'emploi pour parler de moi. Tu n'as plus que ta vie, celle qui a survécu à ce corps à corps avec moi. Désormais, c'est vrai, nous ne serons plus comme avant. Nous irons notre chemin de vivant en boitant. Et l'on pourra voir que quelque chose d'important s'est passé dans notre vie. Quelque chose de peut-être silencieux et de mystérieux, mais quelque chose qui interroge. Toute vraie rencontre avec Dieu se fait en face à face, dans l'obscurité d'une provocation qu'on doit vivre. Toute connaissance de Dieu se tient au secret d'une existence et au prix d'une blessure, mais d'une blessure d'amour qui laisse une trace. Une blessure qui jamais ne se referme vraiment, mais qui au moins ne s'infecte pas, comme le dit Peggy. Alors, un Dieu qui ose prendre les traits d'un adversaire pour nous rendre plus combatifs, pour nous arracher à nos routines, un Dieu qui malmène nos certitudes sur lui, eh bien c'est une bénédiction, et une bénédiction qui nous revient en toute légitimité. Et c'est la seule issue possible pour poursuivre la route avec lui. Mais pour cela, demandons-lui l'assistance de son esprit, afin que nous sachions reconnaître ces passages, terribles, hein, c'est vrai, sans lesquels nous sommes bloqués sur les rives de la répétition et de l'illusion de notre passé. Qu'il nous donne aussi de voir dans les moments de perplexité, passé ou peut-être même à venir, la confiance qu'il nous accorde, lui qui estime que malgré les épreuves et les secousses, nous ne lâcherons jamais. Amen.